mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Cette semaine, quelques extraits d'un livre d'entretien entre René Girard et Michel Tréguet, intitulé « Quand ces choses commenceront », publié en 1994. René Girard, pour vous, la révélation christique déclenche un processus global. Nous sortons du mensonge, de l'ombre mythique, pour renaître sous le soleil de la vérité. C'est le début de l'histoire véritable. Ce n'est pas un mythe de plus. René Girard. D'un point de vue chrétien, on pourrait dire que c'est la création qui repart en quelque sorte. La création endommagée par le péché de l'homme, le péché originel. Comment le définissez-vous ? Je ne prétends pas le définir, mais je dis que le système mimétique en fait un bon morceau. Le péché originel commence au niveau de l'individu dans la Genèse, avec Adam et Ève, mais il se poursuit immédiatement sur le plan collectif, avec Caïn et Abel. Le meurtre du frère, c'est la création de la culture humaine, n'est-ce pas ? Tout le système mimétique est là, et les évangiles le disent. Ils font dire à Jésus qu'il va mourir comme un prophète, et parmi les prophètes, Abel est mentionné. Cela montre qu'il n'est pas question ici des prophètes juifs seulement, mais de tous les meurtres religieux depuis la fondation du monde. Meurtres qui ressemblent tous à la passion, en ceci que ce sont tous des meurtres fondateurs, au sens du bouc émissaire. La mort du Christ se situe dans la continuité de ces meurtres. Ce qu'il y a de singulier dans la passion, ce n'est pas la façon dont le Christ est mort. Comment la crucifixion pourrait-elle être singulière, puisque c'était le supplice le plus répandu dans le monde romain ? Ce qu'il y a de singulier dans la passion, c'est que, au lieu de se terminer par une sacralisation du bouc émissaire, ça se termine par une désacralisation de tout le système. Et ce que le christianisme dit, qui est évidemment très paradoxal, c'est que cette révélation qui désacralise tout, elle seule est vraiment religieuse, elle est seule vraiment divine. Structurellement, les évangiles ressemblent à un mythe. Il y a crise, il y a meurtre collectif, il y a révélation religieuse. Pour comprendre que ce n'est pas la même chose, il faut voir ce qu'on dit de la victime. Ce n'est pas du tout la même chose de regarder un meurtre du point de vue des meurtriers et de le regarder du point de vue de la victime innocente. Question. On pourrait vous opposer ceci. Le texte mythique, n'avouant évidemment pas son mensonge, vos affirmations que ce texte ment et que par contre le texte évangélique dit la vérité, sont nécessairement préalables à toute analyse. Votre système de représentation et celui de vos critiques sont l'un et l'autre clos. Ils s'excluent, la discussion est impossible. Réponse de René Girard. C'est une excellente objection, qui en résume bien d'autres. Mais je réponds qu'il n'est pas vrai que je pose avant toute analyse que le mythe est mensonge et l'évangile vérité. Ce sont au contraire la science moderne et sa pseudo-science qui posent avant tout examen sérieux que tout est mythe, y compris la passion, et que tout est faux. En résistant à l'emballement mimétique, auquel les mythes ne résistent pas, les évangiles repèrent, pénètrent, expliquent ce que les mythes subissent trop complètement pour le voir. Les évangiles voient que la culpabilité d'Édipe est une culpabilité bidon, de foule paniquée, comme celle du Christ. Ils peuvent décrire ce que croient voir les yeux des païens, le bouc émissaire premièrement tué, puis plus tard faussement divinisé en tant que bouc réconciliateur. L'évangile de Luc nous dit que, à partir de ce jour-là, après la mort de Jésus, Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, devinrent amis. C'est une réconciliation qui, évidemment, n'est pas chrétienne, mais qui est le résultat du sacrifice pour ceux qui y croient. Il y a plus fort encore. Hérode croit à la résurrection de Jean-Baptiste qui l'a fait tuer. C'est écrit, Matthieu 14, 2. De Jésus, dont la renommée arrive jusqu'à lui, le tétrarque affolé déclare « Cet homme est Jean le Baptiste, c'est lui, ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. » Hérode divinise sa victime en tant que bouc émissaire, en tant qu'il l'a tué. Question. Le mythe justifie la violence, mais les rites qui l'engendrent l'arrêtent aussi. Réponse de René Girard. Le mythe justifie la violence contre le bouc émissaire. La communauté n'y est jamais coupable. Thèbes n'est pas coupable vis-à-vis d'Édipe. Édipe est coupable vis-à-vis de Thèbes. Mais le rite protège les communautés de la grande violence du désordre mimétique, grâce aux violences réelles et symboliques des sacrifices. Pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Dupuis, les systèmes sacrificiels contiennent la violence, dans les deux sens du terme, parce qu'elle est dedans et parce qu'il l'empêche de tout submerger. Question. Après tout, ce n'est peut-être pas si mal de contenir la violence ainsi, en la médiatisant dans des rites. Réponse de René Girard. Ce n'est pas si mal, mais la violence revient toujours. Question. Mais peut-être au coût minimum. Réponse de René Girard. Peut-être au coût minimum, mais aussi au prix de la vérité. Certaines sociétés primitives évitent de s'en prendre aux vrais coupables, parce que ce serait exciter l'esprit de vengeance. Canaliser la violence vers une victime sacrificielle, comme vers une espèce de paratonnerre, c'est sans doute arrêter la violence, mais ce n'est pas joli joli. Même si nous sommes très sélectifs dans nos indignations, très hypocrites parfois, il reste vrai de dire en gros que nous ne tolérons plus cette solution-là. Question. On ne peut pas condamner le sacrifice puisqu'il est inconscient, mais on ne peut pas le recommander parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, si on le pratique en connaissance de cause, à ce moment-là, c'est le nazisme. Réponse de René Girard. Si vous faites du sacrifice une idéologie, vous êtes dans l'horreur. Question. Par contre, ce qui se passe avant l'apparition du christianisme n'est pas mal, c'est simplement l'histoire humaine. Réponse de René Girard. C'est l'histoire humaine, mais le biblique, c'est mieux. C'est la résistance au phénomène du bouc émissaire. Les religions antérieures sont complètement noyées dans l'univers sacrificiel, mais avec une certaine innocence. À la vérité, le mot « innocence » est dangereux et excessif. Dans les Actes des Apôtres, vous avez un texte extraordinaire qui parle d'ignorance. Pierre marche vers la foule à Jérusalem et dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Vous avez tué le Fils de Dieu, et vous ne le saviez pas, vous ne l'avez pas compris, même vos chefs l'ignoraient. » C'est-à-dire qu'il accorde même aux politiciens cyniques, à Caïphe et à Pilate, le bénéfice de l'inconscience. Question. On pense aussi au « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». L'arrivée du Christ perturbe l'ordre sacrificiel, le cycle des petites fausses paix provisoires suivant les sacrifices. Réponse de René Girard. L'histoire des démons de Gérasa le montre bien. Pour se libérer de la foule qui l'entoure, le Christ monte sur une barque, traverse le lac de Tibériade et accoste en territoire non-juif, au pays des Géraséniens. C'est la seule incursion dans les évangiles chez un peuple non lecteur de la Bible, non soumis à la loi mosaïque. Comme Jésus descend de la barque, un homme possédé vient lui barrer le passage. Il avait son habitation dans les tombes, et même avec une chaîne, personne ne pouvait le lier. Sans cesse, nuit et jour, il était à crier et à se taillader avec des pierres. Le Christ lui demande son nom, et il répond « Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup ». Il demande alors, ou plutôt les démons qui parlent par sa bouche, demandent au Christ de ne pas les envoyer hors du pays, puis de les laisser entrer dans un troupeau de porcs qui paissaient par là, ce qu'ils font. Et les porcs se précipitent du haut de la falaise dans le lac. Ce n'est pas la victime qui se jette de la falaise, c'est la foule. À l'expulsion de la victime unique est substituée l'expulsion de la foule violente. Le possédé guéri veut suivre le Christ, mais celui-ci lui dit de rester chez lui. Et les Géranésiens viennent en foule supplier Jésus de partir immédiatement. Ce sont des païens qui fonctionnent grâce à leurs expulsés, et le Christ est en train de semer dans leur système un trouble qui fait penser au désordre actuel du monde. Ils lui disent en somme « Nous préférons continuer avec nos exorcistes, parce que toi tu es visiblement un vrai révolutionnaire. » Au lieu de réorganiser le démoniaque, de le réarranger quelque peu, tu le supprimes entièrement. Si tu restais, tu nous priverais des béquilles sacrificielles qui nous permettent de nous déplacer. C'est alors que Jésus dit à l'homme qu'il vient de libérer de ses démons, « C'est toi qui vas leur expliquer. » Ce possédé qui ne cesse de se taillader est un auto-lapidé. Or, c'est la foule qui lapide. Donc, ce sont bien les démons de la foule qui sont en lui. C'est pourquoi il s'appelle Légion. Il est en quelque sorte l'incarnation de la foule. C'est la foule qui sort de lui pour aller se jeter du haut de la falaise. Question. Pourquoi pas un grand coup de soleil ou de balai définitif dans nos mauvaises habitudes en l'an zéro, ouvrant une ère d'amour et de paix infinie? Réponse de René Girard. Parce que le monde n'y résisterait pas. Comme le principe sacrificiel est le principe fondamental de l'ordre humain, les hommes ont besoin jusqu'à un certain point de déverser leur violence, leur tension sur des boucs émissaires. Le détruire d'un seul coup est impossible. C'est pourquoi le christianisme est agencé de façon à aménager des transitions. C'est une des raisons sans doute pour lesquelles il est à la fois si éloigné et si proche des mythes. L'histoire n'est pas finie. Il se produit tous les jours sous nos yeux des choses très intéressantes, des changements de regard. Aux États-Unis et partout, on peut unifier beaucoup de phénomènes culturels actuels en les décrivant comme la découverte de nouvelles victimes, comme leur réhabilitation concrète plutôt, car à la vérité, elles sont découvertes depuis longtemps. Les femmes, les jeunes, les vieillards, les fous, les handicapés physiques et mentaux, etc. Notre langage est dominé par ce type de considération. Par exemple, la question de l'avortement, qui a une grande importance dans le débat américain, ne se formule plus qu'ainsi. Qui est la vraie victime ? Est-ce l'enfant ou est-ce la mère ? On ne peut plus défendre une position quelconque qu'en faisant d'elle une contribution à la croisade anti-victimaire. Question. Cela vous paraît-il une bonne chose ou une régression ? Réponse de René Girard. En soi, c'est une bonne chose. Le vocabulaire et le point de vue chrétien se glissent partout et s'universalisent. C'est un signe que les temps changent, que la révélation progresse. Mais il est vrai aussi que dans bien des cas, ce sont des caricatures qui se mettent en place, des exploitations détournées et pathologiques de l'obsession victimaire. Désormais, on ne persécute plus qu'au nom des victimes. À l'extrême, la toute-puissance de la victime devient telle dans notre univers qu'elle est peut-être en train de glisser vers un nouveau totalitarisme. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.